Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le pédalo sur Radio Campus Angers. On est ensemble pendant 30 minutes pour discuter de l'actualité locale et aujourd'hui c'est Juliette, notre stagiaire qui était avec nous ces dernières semaines, qui s'était rendue à l'école supérieure d'art et de design TALM où elle était partie à la rencontre des étudiants et étudiantes qui préparaient leur diplôme ainsi que d'Antoine Réguillon, directeur de l'école. Et on écoute ça sans plus tarder, très bonne émission.
À l'approche des vacances, nous avons eu envie de visiter l'école des Beaux-Arts d'Angers, qui appartient à l'ensemble d'établissements de formation artistique TALM, Tours, Angers, Le Mans. Nous avons rencontré son nouveau directeur, Antoine Réguillon, qui a pris ses fonctions au mois de janvier 2021. Nous lui avons demandé comment s'était déroulée son arrivée dans un contexte si particulier.
En effet, en arrivant comme ça en cours d'année, la question est plutôt, je dirais, d'accompagner un mouvement qui est déjà bien lancé, comme une rentrée normale en septembre, et puis qui s'est vite transformé avec le confinement comme une année particulière. Une partie de la pédagogie, en tout cas, se faisait à distance, selon les protocoles en vigueur dans l'enseignement supérieur. Mais on avait quand même la possibilité de faire venir des élèves sur des temps spécifiques, notamment d'ateliers, ce qui a permis de garder une continuité, une présence très importante à ce moment-là, puisqu'on ressentait quand même une certaine lassitude, voire même de l'isolement, d'un certain découragement. Et puis en janvier, toujours dans les écoles d'art, il y a une période comme ça de bilan du travail à mi-chemin. Et donc ce moment, on l'a fait en présentiel, parce qu'il fallait vraiment relancer l'activité des étudiants à un moment très très compliqué pour eux. Et ensuite, donc, ça a permis d'ouvrir sur le second semestre et d'accompagner tout ça avec un développement très fort des workshops et qui ont permis d'engager une activité artistique très régulière avec les ateliers. Ça a permis de conserver une sorte de ligne un petit peu de travail et de capacité de production jusqu'au diplôme qu'on organise par exemple en ce moment.
Vous dirigez précédemment l'école des Beaux-Arts de Bourges. Qu'est-ce qui fait selon vous l'intérêt spécifique de ce site ?
L'école d'art d'Angers est une école territoriale, donc ce qui ne change absolument rien sur la nature des diplômes délivrés, mais qui lui confère, je dirais, un ancrage ou une proximité encore plus forte avec les collectivités. Cette école est reliée aussi à un ensemble qui est multisite, Tours-Angers-Le Mans, qui constitue un établissement public qui regroupe quasiment 700 élèves. Voilà, en dehors de ça, le site est particulier. Il y a plusieurs bâtiments qui se relient et qui sont très imbriqués dans un quartier du centre-ville. Et donc l'école a cette particularité d'être très en lien et très en phase avec ce qui se passe autour, avec une diversité d'espaces qui est vraiment très particulière, qui va d'un site patrimonial à quelque chose de plus commun, mais il y a des bâtiments industriels aussi. L'autre aspect, c'est peut-être la grande qualité des ateliers, qui ici sont particulièrement développés sur des techniques qu'on trouve peut-être moins dans certaines écoles d'art, ou plus du tout. Donc en gravure, par exemple, sérigraphie, lithographie, toutes les techniques de gravure sont présentes. Il y a d'autres types d'ateliers, par exemple en volume sculpture, qui sont assez équipés et qui permettent comme ça aux élèves d'acquérir des compétences techniques aussi, donc d'asseoir, on va dire, leur formation sur des techniques assez solides.
Quelles sont les impulsions, les directions que vous aimeriez donner à cet établissement ?
Le rapport au site que j'évoquais induit justement une ouverture sur la ville et sur le rapport à l'extérieur. Et je dirais que le premier élément qu'on souhaite et que je souhaite avec l'équipe aussi développer et renforcer, c'est cette dimension-là. L'école est un acteur artistique et culturel de la ville d'Angers, plus généralement de son territoire, le département, la région, et cette dimension-là est très, très présente. Elle n'est certainement pas encore assez visible et elle mérite aussi, je dirais, un rapprochement encore plus important avec des partenaires culturels et artistiques de proximité dans les différents domaines qui constituent le paysage et l'écosystème artistique angevin. Voilà, donc ça c'est une dimension importante qui concrètement se traduit par la mise en place de nouvelles formations mais en partenariat avec certaines entités, soit culturelles, soit universitaires de la ville. Et puis, une attention aussi à ce que notre action, enfin dire culturelle, soit reliée encore mieux à ce qui se passe autour. Voilà, avec une attention notamment à faire exister finalement nos événements ou nos actions en relation avec ce qui se passe déjà. C'est vraiment un élément à affirmer davantage. Donc les nouvelles formations, en fait, elles sont liées à cette question-là aussi, et elles viennent renforcer des points forts de l'école, et je dirais des points forts aussi de la ville et du territoire. Je prends un exemple très simple que tout le monde peut connaître aussi à Angers, c'est la question du textile et de l'art textile. Donc il y a à la fois une tradition pour Angers, parce que c'est relié à l'histoire de la tapisserie. C'est une formation historique dans l'école, puisque c'était aussi un diplôme municipal de lycée qui formait des techniciens à une certaine époque. Et depuis quelques années, c'est devenu un élément de formation artistique, je dirais, comme un autre. Et on essaie de voir comment on peut accompagner le mouvement pour avoir une formation reconnue au plan national et international dans ce domaine et qui se développerait jusqu'au niveau du master. Très concrètement, ça nous oblige à voir comment on se relie à un réseau d'acteurs locaux, régionaux, et puis au-delà, national, international, pour construire cette formation et qu'elle participe de l'attractivité de cette école, sans perdre de vue la diversité des propositions pédagogiques. Parce que c'est une école aussi qui est présente sur les domaines de l'art, du design. Je citais les pratiques textiles, l'image, la photographie, la vidéo. Tout cet ensemble doit rester le plus ouvert possible.
Comment percevez-vous la scène artistique contemporaine à Angers et quelles sont, selon vous, les perspectives d'évolution de cette scène contemporaine dans un avenir proche ?
La scène artistique angevine m'apparaît être éminemment pluridisciplinaire. On sent peut-être moins qu'ailleurs la frontière des domaines artistiques. Et là, donc on a une présence par exemple forte de la musique, des musiques actuelles. On a une présence très affirmée du spectacle vivant, avec le Quai notamment comme point un peu nodal de cet ensemble, mais aussi des associations. Côté art visuel, il y a, je trouve, une présence qui s'accentue d'ailleurs des jeunes artistes, qui sont peut-être plus partie prenante de la vie culturelle qu'auparavant. Pour l'école, il nous appartient de l'accompagner, voire même d'en faire un enjeu de développement. On a une mission d'ailleurs de travailler, de développer l'insertion professionnelle des jeunes artistes et designers. Par exemple, participer au développement des ateliers d'artistes dans la ville, d'avoir des propositions en direction des diplômés ou des jeunes artistes émergents de façon à pouvoir les stabiliser un peu plus sur le territoire et donc de contribuer finalement à renforcer la présence de cette scène artistique émergente qui ne demande qu'à se développer. Effectivement, on sent le besoin d'accompagnement aussi, surtout en période de crise, qui fait que la difficulté de s'insérer, c'est-à-dire d'avoir des projets finalement concrets en termes de production, de commandes, d'exposition, se complique. Donc, oblige aussi les acteurs eux-mêmes et les collectivités à réfléchir à ce qu'il est possible de faire pour y répondre. Finalement, Rue sur Vitrine est l'élément qui préfigure ce que pourrait être l'école de demain, c'est-à-dire au fond une école qui n'est pas qu'un atelier, mais qui est un lieu où on se montre aussi, et on se montre sur des temps publics. Je pense qu'on est à la croisée de cette réflexion-là, en essayant justement de définir, outre cette galerie, d'autres lieux qui pourraient être finalement les compléments en fait de cette possibilité. Par exemple, l'école dispose d'un atelier qui est une ancienne distillerie, donc l'ancienne distillerie Giffard, qui est un site finalement historique à Angers. Ce site qui garde d'ailleurs son intérêt patrimonial comme ça, d'architecture industrielle, est un formidable lieu de travail, mais potentiellement c'est aussi un très très beau lieu d'exposition. Et donc on souhaite en faire un lieu de visibilité, par exemple dès le mois de septembre, qu'il puisse y avoir une exposition des diplômés à cet endroit-là, une ouverture publique, et puis par exemple pendant les journées européennes du patrimoine, une circulation des publics pour qu'ils puissent venir voir les productions des étudiants, des diplômés. Donc on a une vraie question de visibilité sur l'entièreté du site. Et Rue sur Vitrine était un petit peu l'élément qui a permis aussi de se rendre compte de ça.
Et finalement, qu'est-ce que vous souhaitez le plus pour les étudiantes, les étudiants qui passent par l'école ? Est-ce que c'est une expérimentation de multiples médiums, de techniques ? Est-ce que c'est une insertion sur la scène de l'art contemporain ? Une professionnalisation de leur pratique ?
Alors oui, il y a effectivement un enjeu d'acquisition de compétences, comme je le disais, dans des ateliers qui sont très performants pour ça. Ça s'accompagne évidemment d'une vraie réflexion sur la création contemporaine et donc d'un développement de sa propre pratique pour être, je dirais, le plus en lien et en phase avec les préoccupations contemporaines de l'art aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment notre exigence par rapport à la formation. Mais on n'oublie pas non plus, effectivement, que la sortie de l'école, eh bien, un certain pourcentage de nos élèves vont faire d'autres métiers que la création contemporaine. Ils seront des professionnels dans certains domaines très pointus, très techniques. Ils seront des agents ou des techniciens du monde culturel. Ils seront en responsabilité parfois dans des structures associatives. Ils auront des engagements dans le monde de l'enseignement, etc. Tous ces métiers là doivent être aussi, je dirais, envisagés, en tout cas en termes de compétences dans une école d'art, puisque au fond, ces acquisitions de compétences se font tout au long du parcours. Donc ça nous appartient d'être attentifs aussi à cette dimension-là, notamment par exemple quand, avec les partenaires artistiques, les étudiants vont en stage dans différents lieux. Donc ça, c'est très important qu'on puisse continuer à le faire d'une manière très ouverte, qu'on puisse reconnaître aussi par exemple l'engagement personnel des élèves qui peuvent avoir des engagements associatifs, notamment dans des domaines parfois extérieurs à l'art. Et d'ailleurs, c'est très, très intéressant parce que parfois ils font aussi la connexion entre certains domaines et le domaine artistique. D'autres formes d'engagement qui sont très divers et qui caractérisent les parcours multiples des étudiants d'une école d'art aujourd'hui.
Un des enseignants de l'école, Nicolas Moulin, semble vouloir initier un pôle de création sonore, avec notamment la mise en place d'un label de vinyle au sein de l'école, peut-être même la création d'une radio. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus ?
Oui, donc on a défini effectivement avec Nicolas Moulin, qui est artiste, plasticien, vidéaste, et donc qui a une production aussi dans le domaine sonore très, très importante et reconnue, et qui a lui-même participé d'ailleurs à la création de labels dans son parcours, redéfini en tout cas le pôle son image numérique de l'école, et de façon à le renforcer, à le rendre plus visible. Et donc la question du son dans cet ensemble était très importante, au même titre d'ailleurs que la question par exemple de l'image mouvement et du cinéma. Et donc l'idée portée par Nicolas Moulin était de pouvoir effectivement d'abord localiser la question de la création sonore dans l'école et d'avoir un lieu ou des lieux qui puissent permettre de la travailler de façon encore plus importante. Et on a quelques espaces d'enregistrement, de post-production qui existent, mais on avait besoin de les rassembler à un endroit. Et dans cette maison du son et de l'image, on souhaite qu'il y ait effectivement des outils de production plus adaptés, mais aussi un petit peu en écho à ce que je disais tout à l'heure sur la proximité entre atelier et diffusion artistique, l'hypothèse de la radio ou du label qui est un moyen aussi de rapprocher les étudiants et les productions de l'enjeu de diffusion. Et une radio dans une école d'art, ça peut être aussi à la fois un espace d'expression, mais c'est aussi un atelier qui peut permettre de produire du son différemment, de faire du live. Et la radio est un outil, un vecteur aussi qui aujourd'hui anime énormément les scènes artistiques en France, en Europe. Donc on souhaitait effectivement pouvoir disposer de cet outil qui existe également déjà à l'école d'art du Mans, qui est donc un site de TALM, en écho un peu à ce que font nos collègues du Mans. D'ailleurs, sur le design sonore, on souhaitait aussi répondre d'une certaine manière en développant l'outil radiophonique, on va dire peut-être du côté de la création contemporaine, et de se rapprocher de ce point de vue-là, justement, des acteurs qui s'en occupent à Angers, dont Radio Campus.
Des études ont montré récemment que les femmes étaient très représentées parmi les étudiants d'école de Beaux-Arts. Un chiffre assez stable depuis les années 2000 serait de 65% de femmes étudiantes environ. Pourtant, peu d'entre elles parviennent à un véritable statut d'artiste. Comment serait-il possible, à votre avis, de faire bouger ces lignes-là ? Et de manière plus générale, comment abordez-vous les questions de genre au sein de l'établissement ?
Alors, c'est un enjeu essentiel aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment effectivement ce décalage qui existe et constaté dans toutes les études entre la représentation des étudiantes dans les écoles d'art et finalement leur peu de représentation ou leur moindre représentation sur les scènes artistiques. Et donc au plan national, il y a eu des belles initiatives dans ce domaine avec des formes d'action collective qui se sont constituées pour une meilleure représentation des artistes femmes. Artistes comprenant aussi le monde du design d'ailleurs, hein, pour en parler. On pourrait parler de l'architecture l'architecture de la même façon d'ailleurs. Donc au sein des écoles, ce qu'on doit faire, c'est effectivement être extrêmement attentif à la représentation au sein des enseignements. Donc il y a effectivement un enjeu de parité, évident. Il y a une question aussi de représentation dans nos invitations qui est prépondérante, c'est-à-dire qui on invite, comment, à quel moment, à quelle fin. Effectivement, pas forcément des questions qui se posaient de manière statistique, on va dire, auparavant. Aujourd'hui, je dirais que la question est simplement à la fois le juste équilibre, mais aussi plus que ça, c'est-à-dire qu'on engage un travail sur l'orientation professionnelle. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se reconnaît dans un parcours si on peut difficilement s'identifier à ce parcours. Donc, effectivement, on est attentif dans nos invitations à inviter des artistes, des théoriciennes, des professionnels dans certains domaines qui sont peut-être moins identifiés comme des domaines dans lesquels on va avoir des représentations féminines. Je pense à des domaines plus techniques, par exemple. Voilà, et donc montrer que l'amplitude des métiers s'ouvre à nos étudiantes. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement telle ou telle filière, mais ça peut être l'ensemble des filières. Que certaines peuvent être davantage mixtes, d'ailleurs, que d'autres. Voilà. Et j'évoquais la question du textile, par exemple, tout à l'heure. Effectivement, dans cette filière-là particulièrement, on a une représentation masculine très faible. Voilà. Et donc là, on se doit, effectivement, à l'inverse, d'être aussi en équilibre pour justement éviter ces fausses représentations qui existent dans ces domaines et qui finissent, effectivement, par devenir presque des points de blocage, en fait, pour l'évolution des carrières. Donc ça, c'est vraiment une attention, et ça fait partie de nos évaluations. C'est-à-dire qu'on est non seulement dans une action collective de l'école, mais on est dans un processus aussi de rendre compte sur ces points. On est évalué donc tous les 5 ans pour nos diplômes, et dans ces évaluations aujourd'hui, et c'est tant mieux, sont prises en compte les questions de parité, de genre, mais pas simplement d'un point de vue comptable et statistique, d'un point de vue aussi de l'enjeu pédagogique, voilà, de la manière finalement dont un établissement d'enseignement se tourne et aborde ces questions et les relie finalement à sa pédagogie. Ça peut passer par exemple par des enseignements, des cours spécifiques qui abordent la question du genre, et c'est le cas dans l'école puisqu'il y a plusieurs séminaires qui sont dédiés à cette question. Voilà, notamment au niveau du master, puisque pour certains de nos étudiantes et étudiants, ça devient un enjeu de recherche aussi.
De l'album Control Z de Désespoir, le compositeur, producteur et vidéaste d'Angevin, passé par l'école des beaux-arts locale. Nous avons rencontré les étudiantes et les étudiants de l'école. Plusieurs sont en train de préparer leur diplôme de fin d'études, le DNSEP. Diplôme national supérieur d'expression plastique, désormais équivalent à un master 2. Louise est venue aider une amie à préparer son examen.
Alors là, on est tous ensemble dans une salle d'expo à l'école pour aider en fait donc ma camarade de classe Charlène qui prépare son diplôme. Et donc pour le besoin d'une vidéo, on doit tous se serrer dans une salle de 9 mètres carrés. Donc ce qui explique qu'on est là une petite dizaine, quinzaine pour justement se placer devant la caméra. Je passe dans cette même salle-là ici et ça se passera dans le noir. Mais j'aurai qu'une après-midi pour installer. J'aurai de l'aide dans tous les cas.
Nous leur avons demandé comment les confinements successifs avaient affecté leur formation pratique, mais aussi ce qui les avait motivés dans leur choix d'études, ce qu'ils et elles retenaient de leur formation. Nous avons également recueilli leur point de vue sur la scène artistique locale, sur les questions de genre dans le milieu de l'art, et avons cherché à savoir quels étaient leurs projets et leurs rêves. Louise, Bérangère, Barberine, Charles, Chloé et Laura ont répondu à nos questions.
De octobre à décembre environ, on était vachement en télétravail, donc les cours théoriques continuaient. Et ensuite, dès janvier, on a pu retourner à l'école, donc avec des horaires aménagés quand même, et on ne devait pas être trop nombreux. À partir du, je dirais, du 4-5 janvier, on pouvait accéder aux ateliers quand même.
Pourquoi j'ai choisi cette étude de... Je sais pas exactement pourquoi, j'avais commencé à faire des études en design et la formation me plaisait pas trop parce que c'était très scolaire et tout ça. Je suis rentrée aux Beaux-Arts, j'ai découvert plein de trucs en première année et j'ai trouvé mon compte.
Alors moi j'ai commencé assez tôt parce que j'ai fait un lycée technique en STD2A qui déjà me poussait plus vers l'art appliqué. Et ensuite, j'ai bien vu que l'art appliqué, c'était pas forcément mon truc, mais que les arts plastiques, ça l'était plus. Donc j'ai un peu toujours rêvé des Beaux-Arts. Et du coup, je me suis présentée au concours juste après le lycée. Là, il y a des vrais échanges aussi avec des professeurs et c'est aussi ce qui m'intéressait, je pense.
C'est un parcours d'études assez particulier. On va pas avoir forcément un bagage technique à l'issue. À mon avis, ce qu'on apprend, c'est vraiment à se connaître et être surtout alerte sur les autres, sur la manière dont se comporte notre société.
Pour moi, c'est plus une réussite personnelle. Ça, diplôme ou pas diplôme, c'est pas ce qui va m'empêcher d'avoir des projets artistiques.
Je sais que ça marquera vraiment ma vie dans le sens où ça amène vraiment à voir le monde autrement et voir sa relation aux autres différemment. Et ça donne en fait envie de vraiment de partager, de faire des choses ensemble, de parler aux autres en fait.
On a quand même une école qui propose beaucoup d'ateliers comme la gravure, il y a de la céramique, il y a de la fonderie, il y a tout ça et c'est un peu une chance. Enfin, ce qui m'a fait le plus kiffer, c'est vraiment de rencontrer des gens. C'est un peu une petite famille, hein. On est tout le temps ensemble, on passe notre vie ici, c'est nos ateliers, c'est grâce à ces 5 ans. Je suis arrivée en finale à un projet qui me tient toujours à cœur. Mais c'est vrai, pour parler du marché de l'art, tous ces trucs-là, est-ce qu'on nous en parle clairement? Moi, je trouve pas. Non.
Non, clairement pas. Après, je trouve qu'on nous prépare aussi à une autre réalité, qui est celle de se dire, voilà, vous n'allez pas sortir avec un CDI, donc insérez-vous autrement, trouvez des compromis. En fait, on n'est absolument pas préparé au monde, entre guillemets, professionnel, artistique. Non, on n'est pas, clairement, on n'est pas préparé à ça. Mais c'est des choses qui sont difficiles aussi à mettre en place. Et puis, quand on rentre aux Beaux-Arts, on prend très vite goût à la liberté des enseignements. C'est important à apprendre, par contre, le statut juridique de l'artiste, de savoir, même si on fait une exposition, à quel titre on doit être payé, quel taux, enfin, etc. Ça, c'est des choses, par contre, je pense, qui seraient intéressantes à développer.
Je pense qu'il y a vraiment du travail parce qu'on est complètement lâché dans la nature et c'est un gros regret pour moi. On ne sait pas comment faire après, en fait. On est dans cette espèce de microcosme pendant 5 ans où c'est confortable d'une certaine façon. Et après, quand on sort, c'est compliqué. J'ai eu de la chance de tomber sur Blast. Sinon, je pense que j'aurais pratiquement laissé tomber.
Cette année, on a eu un changement de direction et je trouve qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour accompagner, notamment des propositions de résidence d'artistes dans l'école, un accompagnement après. Là, on va faire des journées professionnelles le 2 juillet. Il n'y avait pas forcément toutes ces choses mises en place. Ça bouge petit à petit.
J'ai fait mes études ici, l'école m'a plu. Mais je l'ai un peu fui aussi par la suite parce que j'avais envie de trouver un autre dynamisme justement artistique et culturel que je retrouvais pas dans la ville. Je dis pas qu'il se passe pas des choses, mais la pluridisciplinarité qu'on a au sein des Beaux-Arts, en fait, elle s'atténue un peu en dehors de l'école, j'ai l'impression, à Angers. Du côté institutionnel, c'est quand même ancré dans une tradition muséographique assez datée. Et du point de vue plutôt privé, en fait, il y a assez peu de galeries d'art contemporain. Et quand il y en a, c'est surtout de la galerie de vente.
Il y a beaucoup de choses à faire. C'est ça qui est intéressant à Angers, c'est qu'en fait, il y a plein de choses à proposer parce qu'il manque beaucoup de choses. Sur le terrain de l'art contemporain, des choses un peu différentes de ce qui se fait aujourd'hui dans les musées, dans la vie culturelle vraiment de la ville. C'est encore très, je trouve, très établi, très cadré. Et il manque un truc un peu plus jeune, un peu plus actuel. Dans les préoccupations du coup de notre génération, je trouve qu'on s'y retrouve pas du tout.
Moi, je trouve qu'il y a quand même un manque d'ateliers d'artistes ou de lieux, on va dire, un peu alternatifs. On peut venir se rencontrer tous ensemble, des lieux qui sont ancrés dans la ville. J'ai fait 4 ans à Lille. Il y avait ces lieux qui permettaient quand même de donner un souffle nouveau, qui permettaient des nouvelles expos, qui permettaient de découvrir des designers, des petites biennales. C'était de tout, c'était artistes, designers ou la mode, enfin voilà, quelque chose de diversifié en fait. Et moi, je pense que c'est ça qui manque un peu à cette belle ville d'Angers.
Moi, j'ai quitté l'école il y a 6 mois, le directeur a changé. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un nouveau dynamisme dans l'école. Le rôle de l'école est très important sur la politique culturelle de la ville, en fait. Je pense que les institutions aussi ont leur rôle à venir chercher les étudiants dans les écoles. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se renouvelle vraiment. Il peut se passer des très bonnes choses, il y a un potentiel. C'est fou, c'est une très belle ville, c'est accessible quand même de Paris, Mantes, même Rennes. Les Rennes ne sont pas données aux jeunes. Ça montre vraiment qu'il n'y a pas d'intérêt pour la communauté artistique jeune. Personne ne nous retient, en fait. Donc on va chercher ailleurs. Je pense que vraiment, il y a cette question de lieu, c'est regrouper les gens, en fait. Des groupes qui vont pouvoir, après, eux, proposer des choses pour le reste de la ville. Donc vraiment, ouvrir des lieux culturels. Voilà, il faut que ce soit démocratisé de plus en plus.
Il faut savoir qu'on est quand même une majorité d'étudiantes et pas d'étudiants. Donc c'est vrai qu'on va avoir des problématiques, je pense, qui vont être peut-être différentes, justement parce qu'on a ce bagage d'être une femme et du coup d'avoir été confrontée à d'autres problématiques que celles que les hommes vont avoir connues. Forcément, dans notre travail, ça peut se ressentir, mais c'est pas non plus une obligation, c'est juste que ça se ressent parce que c'est un fait. C'est vrai que c'est des choses dont on peut parler en tout cas entre nous et ça a forcément une empreinte en tout cas sur notre travail.
Moi, j'ai pas forcément senti de différence. Après, c'est vrai que quand on cite des références lors du diplôme, bah, y a beaucoup de figures masculines qui ressortent. Je pense que c'est à nous de changer. Plus tard, on sera peut-être des références féminines qui envahiront les cursus artistiques.
C'est une question que je me suis posée pendant mes années aux Beaux-Arts. J'ai écrit mon mémoire sur le féminisme. C'est des questionnements que j'avais pas tellement en arrivant ici. Enfin, j'étais assez en colère, mais je savais pas trop pourquoi. Et je viens d'une famille qui est très traditionnelle et j'avais des choses un peu à déconstruire. Et mon DENSEP a été un peu l'occasion de ça. Et je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait beaucoup de problèmes, notamment dans cette école et partout sur la scène artistique. C'est très compliqué d'être une nana dans cet environnement-là qui est quand même très formé en boys club. Mon objectif actuellement, c'est de travailler qu'avec des meufs ou des minorités. Parce que moi, bosser avec des mecs cis, ça m'intéresse plus, quoi. Ces problèmes-là, ils viennent effectivement d'un problème sociétal qui est très ancré et très ancien. Déjà, nous, en fait, on part avec 100 mètres de retard. On part déjà avec une confiance en nous qui est complètement amoindrie et qui est très difficile à construire. C'est très ancré dans notre façon de vivre depuis qu'on est enfant. Et c'est hyper épuisant de faire ce constat-là. De se regrouper en collectif, ça peut aussi être efficace sur le long terme. C'est une préoccupation qui se joue beaucoup en école d'art et qui, du coup, je suis assez optimiste pour la suite.
L'utopie serait vraiment d'avoir ce lieu ouvert à tous, et vraiment à tous, pas qu'à une communauté où vraiment tout se croise et c'est ouvert aux enfants pour pouvoir faire des ateliers, mais aussi pour avoir accès, je sais pas, à un atelier de céramique ou comme un Fab Lab, en fait.
Cette année, j'ai fait un service civique du coup chez Blast, donc c'est un collectif d'artistes qui est installé à Angers, ce qui m'a permis d'avoir un pied du coup dans une structure culturelle d'artistes et tout ça. C'est un peu mon objectif dans le futur, c'est vraiment de travailler le collectif, trouver un endroit où je me sente bien dans un collectif.
Ici, c'est ça, on s'est soudés et en fait, on se rend compte que c'est possible de créer des endroits qui sont entre guillemets safe. Pour tout le monde. Avoir un lieu, c'est des rencontres. En fait, c'est du bon qui se fait, quoi, tout simplement. C'est très banal, mais c'est ça, c'est faire du bon.
Et voilà, un grand merci à Juliette pour ce reportage. Il va être quant à nous déjà l'heure de nous quitter. Ce soir, c'est lundi soir, vous retrouverez Melodub et Bamboo Station pour votre soirée Reggae Roots. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau pédalo. D'ici là, portez-vous bien. Très belle soirée sur les ondes de Radio Campus Angers.